si un jour j'écris un livre sur moi, mettons une autobiographie, pensez-vous que ça se peut qu'il y ait des bouts de mon passé dont, mettons, je suis pas fier, puis j'en parle pas?
Sûrement.
Tu sais, quand vous voyez une vedette, là, écrire une autobiographie, est-ce que la vedette va tout raconter là-dedans? Moi, je me méfie tout le temps. Ça peut être bon, mais quand c'est autobiographie...
D'habitude, une autobiographie non autorisée, ça va tout avoir là-dedans.
Moi, j'aime mieux... Il y a des fois qui vont loin là-dedans aussi, mais une biographie non autorisée...
Ouais.
Moi, j'ai tendance à plus me fier, des fois.
Ouais.
Alors, ça, c'est pour les histoires des individus. Pensez-vous que, concernant l'histoire des peuples et des sociétés, ça peut être la même chose? Souvent, c'est nous autres qui écrit notre histoire.
L'histoire est écrite par les vainqueurs, on dit souvent.
On dit souvent quand on parle de guerre, oui. Mais même à part ça, mettons quelqu'un qui écrit sur l'histoire du Québec, puis c'est un Québécois, puis admettons que c'est un nationaliste, puis il est fier, ce qui n'est pas mal en soi. Est-ce que ça se peut qu'il oublie des passages? Si je vous dis qu'il y a eu de l'esclavage en Nouvelle-France, dans le Québec, ça s'appelait autrefois Nouvelle-France, est-ce que vous pensez que ça s'est toujours enseigné, que c'est reconnu? Les gens à qui je parle, là, ça se peut qu'il y en ait même qui disent, ben non, aux États-Unis, oui, puis ça, c'est connu, puis ils en ont parlé en masse. Mais ici, au Canada, puis au Québec, dans la ville de Québec, est-ce qu'il y a déjà eu des esclaves? La réponse, c'est oui. On le sait maintenant. C'est encore tabou un peu. C'est pas beaucoup discuté. Il y a des historiens qui se sont intéressés à ça. Apparemment que ça n'a pas toujours bien passé. On va en parler avec notre prochain invité qui vient tout juste de publier un livre. C'est un livre jeunesse qui s'appelle Le grain de sable et qui raconte, avec des illustrations, l'histoire du premier esclave ici à Québec. L'auteur Webster et historien est avec nous. Bon matin.
Bon matin. Merci de me recevoir.
D'abord, pourquoi il y a des gens qui nous écoutent ce matin, j'en suis convaincu, puis ils entendent peut-être parler de ça pour la première fois. Pourquoi c'est tabou? L'esclavage aux États-Unis, ça a donné lieu à de nombreux ouvrages. Il y a eu des films là-dessus, il y a eu des séries. Quand on dit Nouvelle-France, Québec, c'est un peu tabou. Pourquoi?
Ouais, ben entre autres, l'esclavage en Nouvelle-France et sous le régime anglais, il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici, comparé à ce qui s'est passé aux États-Unis ou le reste des Amériques. Donc, on parle de 4185 esclaves répertoriés dans notre histoire. Sur ce nombre-là, les deux tiers étaient des autochtones et le tiers était noir. Et donc, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis ici, ça a terminé au début des années 1800. Comparé aux États-Unis en 1865, dans l'Empire colonial français en 1848. Et donc, c'est quelque chose qui, finalement, ne semble pas avoir marqué l'imaginaire.
Même 4000, moi,
exact,
je trouve.
Ben,
c'est sûr qu'il y a des gens qui font comme, il dit pas beaucoup, c'est parce que tu compares avec les États-Unis.
Oui, évidemment. Oui, on compare parce que c'est beaucoup plus que ce qu'on connaît, nous, parce qu'on pense qu'il n'y en a pas eu.
Ben oui. Puis, il y avait moins de monde ici. Toute proportion gardée, les colonies américaines étaient beaucoup plus peuplées qu'ici. Donc, 4000 et plus, c'est quand même pas mal.
Oui, et puis ensuite, nos premiers historiens qui sont penchés sur l'histoire du Canada, on pense entre autres à François-Xavier Carnot, avec l'histoire du Canada en 1845-46, lui a nié l'esclavage ici. Lui, tout simplement, il dit...
Ça n'existait pas.
Oui, il dit, nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves ici afin de conserver la pureté de notre sang. Ça, c'est Garneau dans les années 1840. Et donc, l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique en 1834, 1er août. Ça, à l'époque, on fait partie de l'Empire britannique. Mais disparaît une quarantaine d'années avant ce qu'écrit Garneau. Et les premiers à écrire à ce propos, Jacques Vigée, le premier maire de Montréal, puis Louis-Polyte Lafontaine, en 1859, eux vont le reprocher à Garneau. Ils vont dire, comme il y a des gens qui nous disent qu'il n'y en a pas eu, mais c'est pas vrai, il y en a eu.
Alors, même chez les historiens, ça suscitait des chicanes. Ça a duré combien de temps? À partir de quand, là, on a vraiment, entre guillemets, fait la vérité là-dessus? Là? Parce que là, aujourd'hui, on le sait, c'est incontestable. Mais est-ce que le débat a duré longtemps? Même dans les années, je sais pas, 1940, 1950, il y a des gens qui niaient ça encore?
Ben oui, il y a des gens qui niaient. Toutefois, il y a des gens qui ont écrit à ce propos à la fin des années 1800, au début des années 1900, dans les années 1920. Mais le premier vraiment à se pencher sur cette question-là s'appelait Marcel Trudel, qui enseignait ici à Laval, qui a écrit « Deux siècles d'esclavage au Québec » en 1960. Et il y a des gens qui encore le niaient. Si je me trompe pas, il a dû quitter son poste à Laval, parti enseigner à Ottawa. Et donc, oui, il y a des gens qui n'étaient pas contents.
À cause de ça?
Oui.
Parce qu'il avait écrit là-dessus?
Oui. Et donc, il y a des gens qui n'étaient pas content qu'il soulève ce voile-là, en fait, qui, pour plusieurs, c'est un aspect négatif de notre histoire.
Mais il faut en parler aussi.
Mais oui, parce que l'histoire, c'est ça. Souvent, on a tendance à avoir l'histoire d'un point de vue glorieux. Puis, tu sais, on n'aime pas parler de ce qui est négatif. Mais l'histoire, c'est point. Nos ancêtres n'étaient pas mieux, n'étaient pas meilleurs que ou moins bons que nous. Je veux dire, nos ancêtres ont fait des conneries. Puis, écoute, faut en parler, point.
Mais il y a beaucoup d'historiens au Québec, sans rentrer dans les détails, je veux pas faire dévier le débat, là, mais il y a beaucoup d'historiens du courant nationaliste qui ont essayé de raconter notre histoire. C'était pas toutes des mensonges, là, mais un côté très glorieux, que ce soit les patriotes, que ce soit, tu sais, de Lionel Groulx, puis etc., dans cette école-là. Exact. C'est comme hey, les Québécois, là, puis le peuple français, puis là, on vante ça, puis malheureusement, ils ont joué avec la vérité un peu parfois.
Mais ben, c'est qu'en fait, je pense que des gens comme Groulx, justement, ont utilisé l'histoire pour contribuer à une construction identitaire versus la conquête britannique, puis ce qui se passait dans les années 1800, etc. Donc, je pense qu'ils ont utilisé l'histoire pour justement échafauder un édifice identitaire national. Puis,
ensuite, il y a eu la politique.
Ils en ont élagué des bouts.
Oui. Puis ensuite, dans les années 60-70, il y a eu le courant nationaliste, indépendantiste, et là, il y avait une vision très politique de l'histoire aussi. Mm-hmm. Ça aussi, ça a joué, puis avec ton livre, tu veux ramener ça, raconter ça notamment aux jeunes. Pourquoi avoir décidé de t'adresser à la jeunesse? Parce que je pense que ça intéresse tout le monde, puis tout le monde peut s'intéresser à ça. Mais pourquoi avoir choisi ce public-là?
Mais c'est qu'en fait, j'ai plusieurs initiatives en histoire. Depuis plusieurs années, j'essaie de mieux faire connaître cette histoire-là à travers différents aspects. Donc, je rappe à ce propos. J'ai des chansons hip-hop à ce propos. J'ai monté une visite guidée de la ville de Québec à ce propos. Donc, pendant 2 heures, on marche dans Québec, puis je vous montre les lieux de l'esclavage, mais aussi de la présence noire à Québec. Je donne des conférences à ce propos, mais tout ça, souvent, ça s'adresse à des publics assez âgés. Des gens qui ont envie de s'asseoir pendant 2 heures, m'écouter parler. Des gens qui ont envie de recevoir des dates par la tête, tu sais. J'ai une exposition au Musée des Beaux-Arts en ce moment, d'un mois, sur les esclaves en fuite. Donc ça, c'est une autre manière, c'est à partir des esclaves, les annonces d'esclaves en fuite dans la Gazette de Québec et puis de Montréal. Et donc, ça, c'est une autre manière de toucher les gens.
Oui.
Et là, avec ce livre-là, j'avais envie que les jeunes puissent connaître cette histoire-là aussi. J'avais envie qu'ils comprennent que le premier Africain est arrivé ici à l'époque de Samuel de Champlain. Le premier Africain s'appelait Olivier le Jeune, de son nom de baptême, mais il venait de Madagascar, donc on ne connaît pas son vrai nom. Et ça, c'est l'esclavage aussi, c'est qu'on déracine les gens, on leur donne un nom. Et donc, Olivier le Jeune est arrivé ici en 1629 avec les frères Kirk et a été donné à un traître, vendu à un traître qu'il a donné à Guillaume Couillard. Et Olivier le Jeune va vivre ici toute sa vie. Et donc, dès les débuts de la colonie, on a cette présence africaine-là. Puis comme me semble que c'est important à savoir. Tu sais, souvent, on s'imagine que la présence afro-descendante, la présence noire, la présence africaine ne date que du 20e siècle.
Right.
Mais dès l'époque, dès les débuts de la Nouvelle-France, on a une présence africaine ici.
Et plein de gens connus, parce que tu as parlé de ta visite guidée également. Mm-hmm. Et là-dedans, tu montres des édifices et tu fais référence à des personnages connus dans l'histoire, mm-hmm. notamment religieuses ou autres, qui ont eu des esclaves.
Oui, exact. Oui, tout à fait. Donc, entre autres, on pense à Guillaume Couillard, qui habitait maintenant où est le séminaire de Québec. Donc, par défaut, c'est là qu'habitait Olivier le Jeune aussi, parce qu'il est arrivé ici, il y avait 10 ans. Donc,
si vous voulez savoir, c'est où? Dans la cour centrale du petit séminaire de Québec, il y a comme un cercle m'amené puis un carré. Là,
exact.
C'est le premier puits, puis la première maison, c'est là.
Oui, bien, c'est la maison de Guillaume Couillard. Voilà, exact. C'est
alors, il y avait un esclave
Couillard. Exact.
Il y en avait chez les communautés religieuses aussi.
Aussi. Plusieurs communautés religieuses ont eu des esclaves. Plusieurs gouverneurs ont eu des esclaves, des intendants.
C'était quoi la vie de ces gens-là, Webster? Parce que je sais qu'on dit, tu le racontes un peu, là, que ces gens-là étaient traités vraiment comme un bien meuble.
Oui, tout à fait.
C'est carrément ça.
Écoute, ce sont des gens qui sont achetés, qui sont vendus, qui sont légués dans les testaments. Des fois, on retrouve des annonces d'esclaves à vendre qui sont placées entre un baril de rhum puis une jument.
Qui sont légués dans les testaments aussi.
Oui. Et donc, on te lègue, admettons, la terre, 2 vaches, un esclave noir, un panier, qui était le nom des esclaves autochtones. Et donc, c'était des biens. Donc, ce sont des gens qu'on achète, qu'on vend. À partir de là, on n'a pas beaucoup d'informations comment est-ce qu'ils étaient traités. Parce qu'on a plus d'informations sur l'extérieur, aux États-Unis, dans les Antilles.
On a des images là-dessus.
Le fouet, les mutilations.
Ici, est-ce que c'était la même chose?
On n'a pas ces informations-là.
On n'a pas beaucoup de témoignages.
Donc, on ne sait pas comment ils étaient traités. On sait que c'était pour la plupart des domestiques. Okay. Il n'y avait pas de plantation ici. Il n'y avait pas de plantation de coton, d'indigo, de tabac. Et donc, on sait que certains ont été fouettés en prison. C'est-à-dire, tu les envoies en prison, tu demandes à la personne d'être fouettée, tu demandes au bourreau de le fouetter.
Oui.
Mais généralement, ça n'a pas vraiment laissé de traces. Donc, pour l'instant, on s'imagine que c'était peut-être moins violent que ce qui s'est passé dans les Antilles. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces gens aussi sont des biens. Ils ne s'appartiennent pas. Il y a les violences sexuelles aussi. Dans les annonces, on retrouve beaucoup d'enfants métis. Ces enfants métis-là viennent pas de nulle part. Là,
exact,
tu vois?
Exact.
Et ça, c'est une réalité de l'esclavage aussi. Donc, souvent, les gens vont reprendre cet argument-là, puis ils vont dire « Ah oh, non, mais tu sais, on les nourrissait, on en prenait soin, nos esclaves, c'était le bel esclavage. » Mais il n'y a pas de bel esclavage. Je veux dire, ce sont des gens qui ont été achetés. Ce sont des gens qui...
privés de ta liberté en partant.
Oui, et il n'y a pas d'unité familiale. C'est-à-dire qu'un enfant est vendu dans un coin, les parents sont vendus dans l'autre.
On sépare les familles.
Exact. Donc, l'unité, en fait, sont traités comme on peut traiter le chien ou le chat ou la vache.
Les autres,
exact.
C'est quoi la réaction des gens, que ce soit dans tes conférences, que ce soit, bon, tu le dis, là, tu t'exprimes de différentes façons sur différents plateaux. En général, la réaction des gens, c'est quoi? Est-ce qu'il y a de la surprise, de l'étonnement? Comment les gens réagissent au message? Je t'ai vu en conférence au Salon du Livre récemment. C'est quoi les réactions des gens?
Ben, la plupart du temps, les gens sont surpris. De pas avoir connu ça. Tu sais, je veux dire, moi-même, j'étudie en histoire ici, j'ai jamais vu cette histoire-là. Et donc, il y a beaucoup de surprises. Et parfois aussi, les gens sont fâchés que je raconte cette histoire-là.
Donc, ils veulent pas encore aujourd'hui. Non. Parler,
même,
là,
écoutez, il y a un monsieur qui me suit un peu partout, puis qui me crie après. Justement, j'étais au Salon du Livre, puis il s'est mis à me crier après, me traiter de Bougingo, en passant, ce qui me fait très rire.
Alors, lui, ni les faits, ni l'histoire, il veut rien savoir.
En fait,
de ça.
Non, il pense. Ben, en fait, lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est anecdotique, qu'on ne devrait pas en parler, puis qu'il m'accuse de tronquer les chiffres, en fait. Mais comme je dis toujours, ce que je dis est vérifiable.
Ben oui.
De A à Z. Je veux dire, pour moi, c'est important d'être rigoureux avec ça. Donc, je me base sur Marcel Trudel, sur Frank McKay, sur Brett Rushforth, sur tout ce que j'ai pu accumuler d'informations.
De données et d'informations.
Exactement.
Quel est le... Moi, je vais te donner ma réponse après, mais je veux vraiment t'entendre là-dessus. Parce qu'il y a des gens sûrement qui nous écoutent qui disent, hey, c'est oui, l'histoire, oui, il faut en parler. Mais en 2019, pourquoi, selon toi, c'est nécessaire que les gens qui nous écoutent, que ce soit les jeunes, parce que ton dernier livre s'adresse à un public jeunesse, pourquoi, socialement, là, pourquoi c'est œuvre utile de parler de ça?
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a l'esclavage. Mais au-delà de l'esclavage, il y a des êtres humains qu'on a déshumanisés. Et pour moi, c'est cette présence-là que je veux raconter. Je veux raconter cette présence afro-descendante ici, depuis les débuts de la colonie. Moi, je suis né ici.
Oui.
J'ai grandi ici. Et j'ai toujours étudié notre histoire d'un point de vue extérieur. Tu vois? Et donc, je veux un peu montrer aux gens cette présence-là depuis longtemps. Donc, l'esclavage, c'est une chose. Puis, je pense qu'il faut en parler.
Oui.
Mais au-delà de l'esclavage... C'est des humains que je veux parler. Je veux parler d'Olivier Lejeune. Je veux parler de Mathieu Léveillé, de Marie-Joseph Angélique, de Alexander Grant, de Charlotte Trim. Je veux parler de ces gens qui faisaient partie de nos sociétés depuis des siècles, mais que, encore une fois, quand on pense à l'identité québécoise ou canadienne, on s'imagine toujours que la pigmentation est étrangère à notre histoire. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais ça.
Oui, parce que nier leur existence puis les oublier, moi, je pense que c'est les offenser de nouveau encore.
Exactement.
Et... Moi, je trouve une autre raison, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Quand j'ai visité le musée de l'Holocauste à Montréal, parce qu'il y en a un en passant, il est pas très connu, mais il y en a un. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous rappellent évidemment l'Allemagne nazie, là où ça s'est passé. Mais la seule photo que j'ai prise, j'aurais pu en prendre plein, mais bon, parce qu'il y en a une qui m'a marqué. Et c'est pas en Allemagne, mais c'est sur l'Holocauste, ça a un lien. C'est dans une municipalité à Sainte-Adèle, dans les Laurentides. Au même moment où la Shoah se produit, puis un peu avant, là, il y a une immense pancarte à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui dit, noir sur blanc, ici, les Juifs sont interdits, on n'en veut pas.
Mm-hmm. Oui.
Ça veut dire que, OK, il n'y a pas eu d'Holocauste au Québec, mais on n'est pas à l'abri du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. Nommez-les toutes, c'est souvent tous ces phénomènes-là haineux. Alors, si on dit esclavage, c'est sûr qu'on va penser au sud des États-Unis, et avec raison, où ça a eu lieu.
Oui.
Mais il y en a eu ici aussi l'antisémitisme, la haine des Juifs au moment où ça se passait en Allemagne, pas au même niveau, à la même échelle. Mais ce qui est à l'origine de ça, le sentiment, on l'a eu aussi. Et encore aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ça. Souvent, non, pis... on dénonce d'autres sociétés. On va mm-hmm. dénoncer les Américains. On va dénoncer les Allemands. On va dénoncer, tu sais, des chemises bleues puis des Adrien Arcand. Il y en avait ici au Québec aussi. Et encore là, il y a des gens qui sont mal à l'aise de parler de ça. C'était minoritaire. C'était pas. Oui, mais ça existait pareil. Mm-hmm. Le danger est là. Et moi, oui. je pense qu'il faut prendre conscience de ça.
Ben, je pense aussi. Puis des pancartes comme ça, on en retrouve encore.
Ben oui.
Ben, je veux dire, on l'a vu, mais là, on fait juste changer une religion pour une autre.
Il y en a sur Facebook. Maintenant, ça se passe peut-être moins ailleurs, mais il y en a aussi de l'intolérance puis de la haine.
Oui, ça existe. Puis,
il faut en parler.
Ben, il faut en parler, puis il faut se regarder en tant que société. Puis pour moi, c'est un signe de maturité en tant que société de se pencher sur ces enjeux-là, d'en parler, puis essayer de trouver des solutions communes. Et parce de construire si veut, au lieu de détruire.
Si on veut éviter les erreurs, il faut regarder les erreurs qu'on a faites dans le passé pour ne pas les reproduire. Mm-hmm. Alors, ça s'appelle Le Grain de Sable.
Oui.
C'est disponible maintenant dans toutes les bonnes librairies.
Partout.
Merci beaucoup, Webster.
Merci de m'avoir reçu.
Été là.